Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, pour une fois, nous allons nous écarter des chemins que nous empruntons habituellement. Nous allons certes parler de musique juive, mais pas uniquement. Et ça nous fera du bien d'ailleurs, parce qu'avec notre invité de ce soir, Gérard Kurdjian, nous allons nous aventurer dans le monde passionnant des musiques sacrées. Gérard Kurdjian, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis ravi de vous accueillir. On se connaît depuis déjà de quelques années. Vous
Absolument.
Avez eu la gentillesse de m'inviter à Nice pour un très, très beau colloque sur les musiques méditerranéennes.
Tout à fait.
Je conserve un très bon souvenir.
Oui, au Centre universitaire méditerranéen, tout à fait.
Alors, écoutez, pour vous présenter, vous avez fait tellement de choses que ça va être un tout petit peu long, mais je vais essayer de faire court. D'abord, vous êtes passionné de tradition orientale et depuis plus de 25 ans, vous avez mené de front alors une carrière de musicien, de directeur artistique, de producteur. Et vous avez été notamment directeur artistique de nombreux festivals de musique du monde, dont le festival d'Erevan en Arménie, puisque je crois que vous êtes arménien d'origine.
Vous avez raison de le croire, je suis tout à fait arménien d'origine, oui.
Et donc le festival des musiques sacrées du monde de Fès au Maroc, que vous avez cofondé en 1994 et dirigé jusqu'en 2009.
J'en étais le directeur artistique, tout à fait, oui.
Et en mai 2016, donc tout récemment, vous venez de publier aux éditions Albin Michel le grand livre des musiques sacrées du monde, une véritable somme. Toute cette émission va être consacrée à votre livre et on n'en aura pas fait le tour, puisqu'en 18 chapitres, à peu près 420 pages, vous nous entraînez à la découverte des musiques sacrées dans le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, l'animisme, avec en plus des développements sur la présence du sacré dans les musiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire musique contemporaine, le jazz, les musiques du monde, etc. Donc un livre absolument passionnant qu'on va juste donner envie à nos auditeurs et auditrices de découvrir ce soir dans le cadre de cette émission. Mais comme vous avez la gentillesse de m'envoyer plusieurs exemples musicaux qui illustrent parfaitement votre propos, on va aussi bien sûr, comme d'habitude, entendre aussi beaucoup de musique. Alors la première question que je voulais vous poser, sans vouloir faire un jeu de mots un peu mauvais, mais il faut un sacré courage ou une sacrée inconscience pour se lancer dans un tel travail d'écriture et de documentation. Alors comment vous est venue cette sacrée idée ?
Ben écoutez, c'est vrai que c'est une histoire qui est d'abord personnelle. Je pense que tout travail, quel qu'il soit, de recherche, qu'il soit universitaire, qu'il soit intellectuel, qu'il soit littéraire, repose sur une inclination intime. Donc c'est vrai que j'ai une attirance depuis de longues années pour les musiques du monde, attirance qui est née à travers mon amour pour le jazz d'abord, que j'ai découvert quand j'étais adolescent, puis ensuite les percussions que j'ai travaillées. J'ai fait des voyages en Inde pour travailler les tablas auprès de maîtres réputés à Bénarès, à Lucknow, et à travers ces musiques traditionnelles, ces cultures traditionnelle, j'ai découvert qu'il y avait un lien entre ces musiques et un substrat religieux, un substrat spirituel, en tous les cas dans ces traditions-là. Et bien entendu, ça m'a ouvert aussi l'esprit à ces traditions spirituelles. Et tout ça est allé un petit peu de pair. Mon amour des musiques du monde, mon amour des musiques d'Orient, mais pas que, bien entendu, puisque l'Occident aussi a de formidables musiques spirituelles. Et donc, tout ça est allé de pair. Et j'ai eu la chance aussi de travailler en tant que directeur artistique sur des événements qui m'ont permis de rencontrer ces musiques en les invitant dans les événements dont j'avais la direction, en particulier à travers le festival de Fès des musiques sacrées du monde. Comme je l'ai dit, j'étais directeur artistique pendant 15 ans. Et donc, c'est cette chance que j'ai eue à la fois d'avoir mon intérêt personnel, mon travail personnel de recherche et d'approfondissement, mais en même temps la chance de côtoyer ces musiciens dans la réalité.
Très bien, ben, nous allons donc parcourir votre livre, mais pas forcément dans l'ordre que vous avez choisi. Aussi, pour commencer, je vous propose d'écouter un premier exemple musical. Il s'agit d'une musique dite animiste et vous nous expliquerez juste après ce que signifie ce terme. Extrait de l'album Oulalimage Shi. Alors, je ne sais pas du tout si je prononce bien, parce que ce soir, j'ai parlé dans toutes les langues du monde, c'est ça qui est extraordinaire. On vient d'entendre un morceau, là, c'est plus facile, qui s'intitule Mother, la mère. Alors, c'est la mère de quoi vous nous le direz. Et d'où vient ce morceau, Gérard Kurtjian?
Alors, Ulali, c'est un trio a cappella de femmes indiennes. De femmes indiennes, Native Americans comme on dit, hein, les populations originaires qui peuplaient l'Amérique du Nord avant la colonisation par les émigrations occidentales, protestantes, irlandaises, etc. du 18e et du 19e siècle. C'est donc une tradition de chant. Alors l'origine de ces trois femmes, ce sont des membres de tribus Yaqui, Apache, Tuscarora, ce sont des tribus qui sont dans le sud-ouest des États-Unis, et donc elles ont cette tradition de chant a cappella avec cet accompagnement de tambour chamanique. Mmh. C'est un tambour circulaire, un tambour sur cadre battu donc avec un petit maillet. C'est une tradition donc qui est liée, comme les mondes animistes, parce qu'on parle de l'animisme, en réalité il y a des animismes. C'est une forme, je dirais, de relation au sacré qui est originaire d'une certaine façon dans l'histoire de notre monde. Avant que les religions instituées n'apparaissent, les populations qui vivaient dans la nature, dans un environnement naturel de manière directe, percevaient la nature comme étant le monde, comme étant habité, animé par des esprits qui logeaient dans des rochers, dans des montagnes, dans des pierres, dans des sources, dans le vent, dans les animaux, etc. Et donc, à travers cette présence qu'ils sentaient, ils établissaient des relations pour essayer de canaliser des énergies, bonnes ou mauvaises, de contrôler éventuellement, par le moyen de rituels magiques, le temps, le vent, les bonnes ou les mauvaises prévisions pour le futur, etc., etc. Et donc, c'est ces traditions-là qui ont engendré tout un tas de rituels dans lesquels la musique à travers très souvent des chants et des percussions, était omniprésente. Et donc, cette tradition des Indiens Yaqui, Apache, Tuscarorada du sud-ouest américain est représentée par le chant de ces femmes, de ce trio, donc, qui existe encore, puisque je les ai invitées au Festival de Fès, je ne sais plus en quelles années, au début des années 2000. Et elles représentent cette tradition toujours vivante, puisque, vous le savez, les Indiens d'Amérique du Nord, à travers leurs différentes tribus, sont maintenant regroupés et défendent leurs droits et défendent leur identité à travers des cérémonies, à travers des rassemblements dans lesquels ces chants très anciens sont entonnés. Donc on a là quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre d'un trésor anthropologique ancien, mais qui est une actualité identitaire de ces tribus et de ces populations.
Et alors l'animisme, vous l'écrivez dans votre livre, en fait est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, et parfois il côtoie des religions dominantes comme le christianisme en Scandinavie ou ailleurs. Et c'est assez étonnant comment finalement ces deux religions s'accommodent. Et...
Bien sûr, mais en vrai, il compte dans l'islam aussi. Il est tout à fait présent. Il est présent, je dirais même, dans le Coran, puisque le Coran atteste la croyance dans les djinns. Et qu'est-ce que les djinns, si ce n'est des esprits qui animent et qui animent la nature et qui peuplent le monde invisible. Donc cette présence des esprits, cette croyance dans ces entités existe dans le shintoïsme au Japon. Le shintoïsme, ce n'est rien d'autre que la croyance en des esprits qui habitent les rochers, les arbres, les sources, etc. Donc, ces traditions sont bien entendu vivantes en tant que telles, dans le shintoïsme, mais elles sont présentes, comme vous l'avez justement dit, dans les religions, les grandes, entre guillemets, religions instituées, parce qu'en réalité, ces religions se sont installées sur les lieux. Les églises, les cathédrales sont souvent construites sur des lieux qui étaient des lieux de rituels, des lieux initiatiques pré-chrétiens ou pré-islamiques pour l'islam. Je suis moins calé dans le monde juif, mais je pense qu'il doit y avoir aussi dans le monde juif une relation à certaines entités qui ont peut-être à voir aussi avec l'animisme. Et donc, ça représente pour moi l'humus sur lequel... Les religions se sont installées, ont pris racine, et bien évidemment, dans l'humus, il y a des choses qui remontent, et on en a des exemples dans notre monde quotidien.
Donc pour citer un peu Saint-Pierre, on n'a peut-être pas l'habitude dans cette radio-là, mais c'est un peu sur cette pierre de l'animisme que se sont construits les autres religions en quelque sorte.
Tout à fait, et vous savez, c'est un petit peu comme des résidus radioactifs. C'est enfoui dans la terre, mais ça continue de rayonner. Et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que si on prend les choses de manière positive, on a souvent tendance à prendre de haut ces peuplades qui de manière naïve comme ça vénéraient des choses qui n'étaient vraiment pas existantes réellement et qui ont été remplacées par de belles constructions métaphysiques, etc. Mais en réalité, je pense que ce qu'on a à retirer même par exemple de la relation à la nature. Il respecte la nature. Quand il coupe un arbre, il parle à l'arbre. Il le respecte, ils établissent une relation vivante. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans l'animisme, c'est le côté animé, justement, le côté vivant. Donc, cela induit une relation vivante avec l'environnement. Et ça, c'est un message qui est valable pour nous aujourd'hui.
Alors, vous avez parlé du judaïsme. Dans le judaïsme normatif, on dira qu'il n'y a pas vraiment de traces d'animisme. Mais dans le judaïsme vécu, il y en a partout, avec des traditions, des croyances, des superstitions, notamment, je pense, aux traditions ashkénazes.
Absolument, le dibouk.
Voilà, le dibouk et compagnie. Absolument. Donc, effectivement, on retrouve cette trace cet humus dont vous avez parlé, qui sous-tend un peu toutes les religions du monde. Est-ce qu'on peut dire que, à partir de cet humus, on a déjà eu une première couche, j'allais dire, puisqu'on croit dans les esprits, dans les forces de la nature, est-ce que c'est de là que découleraient les religions polythéistes?
Ben écoutez, oui, si on prend un continuum comme ça, progressiste, logique et rationnel, on pourrait dire du monde des esprits, naissent certaines entités qui rassemblent plusieurs esprits, qui deviennent des divinités multiples, ces divinités multiples se rassemblent en une divinité unique, et on a le monothéisme qui vient couronner cette lente maturation qui part d'une sorte de magma et qui arrive à quelque chose de parfaitement construit. Je pense que oui, on peut envisager les choses de cette manière. C'est un récit qui a une certaine forme de vérité, mais qui repose malgré tout aussi sur une construction. Je veux dire qu'on peut, on peut déconstruire cette construction-là. Elle n'est pas absolue en tant que telle, mais elle a du sens, elle a du sens. Après, dire qu'il y a une progression qualitative, moi, je ne m'avancerai pas jusque-là.
Non, non, je parle évidemment pas de qualitatif. Voilà. Simplement en termes d'évolution, ça peut sembler, comme vous l'avez présenté, assez logique. Maintenant, on sait très bien que les choses logiques ne sont pas forcément celles qui se produisent.
Alors, je préciserai que certaines de ces constructions, de ces formes animistes sont polythéistes en apparence. Parce que, par exemple, il existe dans une tradition africaine, dans l'Afrique de l'Ouest, la croyance en un dieu qui s'appelle Oludumare, qui n'est pas concerné par aucun des rites et qui est un dieu suprême, invisible et omnipotent, qui maintient tout l'univers dans ses mains. Et donc, vous voyez, on a là quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'on imagine.
Une forme de syncrétisme.
Une forme de syncrétisme qui se rassemble déjà en une divinité qui est en dehors de la perception humaine.
Très bien, on pourrait parler des heures de l'animisme, mais on va avancer parce que je vous ai dit, enfin c'est vous qui nous a entraîné dans ce chemin multiple des musiques sacrées, des religions, donc il faut qu'on aborde un peu tout ça à travers le prisme de la musique, à travers le prisme de la religion, et on va parler de l'hindouisme. Puisque Gérard Kurdjian, l'hindouisme est considéré comme la plus vieille des principales religions du monde. Son origine, on l'a fait remonter à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est même antérieur au judaïsme. Près de 900 millions de fidèles, aujourd'hui, l'hindouisme est donc actuellement la troisième religion du monde. À l'inverse des autres religions principales, d'ailleurs, l'hindouisme n'a pas été fondé par un prophète, donc il n'y a pas de dogme central. Et sa pratique étant elle-même issue d'une tradition très ancienne. Donc il n'y a pas de notion non plus d'hérésie chez les hindous, puisqu'il n'y a pas de dogme. Et je vais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots encore sur l'hindouisme?
Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas, de divinité d'où proviendrait une forme de révélation. L'hindouisme est effectivement une religion très ancienne. C'est la religion primordiale, Sanatana Dharma, disent les hindous. Et donc, elle s'origine dans des textes qui sont les Védas. Les Védas qui sont un corpus de 4 textes fondateurs, dont l'un s'appelle le Sama Veda, qui est le Veda des chants. Donc c'est intéressant. Il y a dans le corpus sacré originaire de l'hindouisme, un texte qui concerne spécifiquement la manière de chanter, de déclamer et de réciter de manière mélodieuse les textes sacrés. Donc, de ces Védas mettent en avant, malgré tout, 3 divinités majeures, qui ne sont pas des divinités, qu'on appelle la Trimurti. La divinité principale étant Brahma, qui est le principe universel, dont dérive Vishnu, qui maintient la cohérence de l'univers, et Shiva, qui est la force de transformation. On a une forme de trinité. C'est dit d'une manière un peu rapide. Je pense que les hindous ne seraient pas heureux de cette image. Ils préfèrent le terme de Trimurti. Ce sont 3 manifestations principielles qui manifestent le principe universel qui est à l'origine, qui est le souffle primordial, et ce qui maintient l'univers cohérent et ce qui le fait se modifier, mourir et changer. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a dans l'ordre cosmogonique, dans l'ordre d'engendrement de l'univers, dans l'hindouisme, une notion très importante qui va donner son empreinte à la musique, c'est le nad. Le nad, c'est le son inaudible, primordial, dont dérive par vibration cosmique l'ensemble de l'univers. Vous voyez, on a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une parole, hein, fiat, luxe, que le monde soit. Le monde n'est pas créé par une parole, il provient d'une vibration. Et cette vibration se manifeste dans la syllabe, dans le mantra originaire, qui est le mantra Om. Et tout découle de cette vibration, de ce sonore. Il y a une vibration sonore qui est à l'origine du monde dans l'hindouisme. Et on retrouve cela dans la musique.
Mais c'est intéressant parce que même dans le judaïsme, c'est pas que la parole, il y a le souffle divin.
Il y a le souffle, absolument.
Voilà, donc il y a quand même cette notion de souffle, de vibration, hein, puisque après tout, la parole, c'est une vibration.
Certes, mais ce qui est mis en avant, c'est plutôt le sens de ce qui est dit, plutôt que la nature vibratoire, oui, je dirais, de la parole. Alors que là, il n'y a rien qui est proféré, si ce n'est cette vibration qui plus est inaudible. Donc on a là quelque chose de très intéressant qui structure la spiritualité hindoue. Alors après, vous avez mille fois raison, ces 3 divinités, Brahma, Vishnu et Shiva, se manifestent selon des avatars des incarnations, des représentations multiples qui permettent à chacun de choisir son propre mode spirituel de cheminement. Et donc, on a une société extrêmement libre, extrêmement ouverte, où tout est possible sur le plan spirituel. On peut voir, si on va en Inde, des ascètes se promener nus, couverts de cendres, des commerçants vénérer le dieu Ganesh dans un temple, d'autres vénérer Krishna si c'est le mode dévotionnel amoureux qui est mis en avant. Et tout ça se manifeste de manière extrêmement libre et spontanée. Une chose qui est aussi intéressante, c'est que l'hindouisme n'a pas vocation prosélyte, ne prétend pas à l'universalité, c'est la religion, comme son nom l'indique, des hindous.
Alors on va écouter un exemple de musique sacrée de l'hindouisme. Nous venons d'entendre un extrait de Jayadeva, donc de l'album Gita Govinda, interprété ici par le Pandit Raghunath Panigrahi. Pandit, je crois que ça veut dire le maître.
Le maître, oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ? C'est magnifique d'abord.
Oui, alors c'est un très 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 beau chant qui est extrait d'un corpus de poésie qui s'appelle la Gita Govinda, qui date du XIIe siècle, qui a été écrite par un poète mystique qui s'appelait Jayadeva, hindou. Cette Gita Govinda, c'est l'un des noms de Dieu Krishna, c'est le gardien des vaches. Je passe les détails, il y a beaucoup de choses à dire, mais Krishna est une incarnation de Vishnu, du dieu Vishnu qui rassemble et qui maintient les mondes dans leur cohérence. C'est aussi dans la tradition de dévotion, d'amour dévotionnel spirituel, le représentant qui reçoit, la divinité qui reçoit l'adoration de ses disciples, c'est aussi la divinité de l'amour. Et donc, cette Gita Govinda raconte, narre les amours de Krishna avec Radha, qui est une gardienne de vaches. Et c'est une symbolique, bien entendu, de l'amour humain, mais aussi de l'amour spirituel, qui est très proche, d'ailleurs, du Cantique des Cantiques. La substance des poèmes est à la fois très sensuelle, parce qu'il est question de beauté, il est question de forme, il est question de courbe, etc., il est question d'étreinte, mais en même temps, ça symbolise la quête de l'être humain qui est personnifié donc par Radha, qui cherche à rejoindre sa divinité Krishna.
Et on a une idée de la date de composition de ce poème ?
C'est du 12e siècle.
12e siècle 12e après siècle. Jésus-Christ.
Bien sûr, 12e D'accord. siècle du Moyen-Âge, si vous voulez, de notre époque du Moyen-Âge. Et le Pandit Raghunath Panigrahi est un très grand chanteur, qui représente cette tradition de musique classique indienne, avec un accompagnement d'instruments traditionnels, de tabla, de flûte, et qui est une musique au départ qui n'est pas sacrée, bien entendu, c'est une musique savante, comme la musique classique de tous les pays du monde, mais qui sert d'écrin, si vous voulez, à ces très très beaux textes qui sont des textes mystiques.
Alors ce qui est assez étonnant, on n'a pas beaucoup le temps de faire des détours, mais moi je me réfère toujours un petit peu au judaïsme et au culte qu'on entend dans les synagogues, c'est que là on est effectivement dans quelque chose de très individualisé. On n'a pas des fidèles en train de réciter une liturgie. Alors est-ce que dans l'hindouisme, comment se décline un peu ces musiques ? Alors c'est peut-être impossible à répondre. Est-ce qu'il y a aussi des assemblées de prières ou est-ce que c'est un culte plus individualisé ?
Oui, c'est une question très judicieuse. Moi je connais... L'Inde, oui, je ne suis pas un immense connaisseur, mais je connais quand même pas mal l'Inde. J'étais en vacances en 2010 dans le sud de l'Inde et on est resté longtemps dans une ville qui s'appelle Madurai, où il y a des temples dédiés au dieu Shiva qui sont tout à fait en activité. Et il n'y a pas de chant collectif. Si vous voulez, il y a des brahmanes qui pratiquent les rituels, qui chantent, qui s'accompagnent de percussions, quelquefois avec des hautbois qui s'appellent les Nagashvaram, des hautbois traditionnels très stridents. Ils font les rituels et le public est spectateur.
D'accord.
Voilà. Par contre, il y a dans des voix plus dévotionnelles, comme la voix krishnaïte que je vous ai dite, des assemblées qui chantent ensemble des chants. Mais ce n'est pas dans les enceintes de temples, c'est plutôt dans des lieux privés ou au long de processions, par exemple, autour de temples, vous voyez. Mais il n'y a pas ce côté où on se rassemble et on chante ensemble comme on le voit dans d'autres traditions.
Très intéressant. Alors, on va passer à une autre religion, parce que le temps passe aussi. Et on va parler donc du bouddhisme, qui est en quelque sorte un peu dérivé de l'hindouisme.
Oui, c'est une hérésie de l'hindouisme, si on peut dire.
Alors, on ne sait pas exactement si c'est une religion ou une philosophie, peut-être les deux. En tout cas, son origine remonte en Inde, justement au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque Siddhartha Gautama a eu un éveil, une révélation, et il a commencé à enseigner, là aussi, à des disciples, à des adeptes. Donc, là, le nombre de bouddhistes dans le monde aujourd'hui, c'est entre... Alors, vous voyez, c'est très large, hein, 250 à 500 millions, oui. On ne sait pas exactement, ce qui en fait quand même la quatrième religion du monde. Donc derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Et c'est un ensemble de pratiques méditatives, de pratiques éthiques, de théories philosophiques, cosmogoniques, cosmologiques. Enfin, c'est tout ça dans une perspective d'un éveil, si je ne me trompe pas. Alors, éveil à quoi exactement ?
Éveil au soi intérieur. C'est-à-dire que ce à partir de quoi est parti le Bouddha, il est parti de la souffrance comme étant la base du sentiment de la présence de l'homme dans ce monde. Et cette souffrance originelle vient, selon lui, de l'impermanence. Tout est changeant, tout est mobile, rien ne demeure, et c'est de cette impermanence que naît la difficulté d'être, d'une certaine façon. Il est parti de là, il n'a pas cherché des explications métaphysiques, transcendantales, il est parti, il s'est assis, et il a dit « je ne bougerai pas du pied de cet arbre tant que je n'ai pas trouvé la clé de ce nœud existentiel qui contraint l'humain à vivre dans cette relation de souffrance et cette relation de difficulté ». À la différence, par exemple, de l'hindouisme, qui suppose qu'il y a un soi universel qui est le soi qui va absorber le soi individuel, après un travail, après une ascèse, etc. Le bouddhisme ne croit pas à l'existence d'un soi universel ou d'un esprit universel. Il n'a pas de croyance, il part de ce qui est. Et ce qui est, lorsqu'il s'assoit en méditation, il s'étudie à l'intérieur de lui-même, et par la voie de la méditation, il arrive à purifier d'une certaine façon cet ego et à atteindre l'éveil de ce qui est en soi comme étant la permanence au cœur de l'impermanence.
Je comprends.
C'est un petit peu ce qui est recherché dans le travail de méditation. Alors, le Bouddha a enseigné oralement. Ces enseignements ont été compilés par écrit, ils ont été rassemblés dans ce qu'on appelle Tripitaka, la triple corbeille, puisqu'on dit que tous ces écrits ont été entassés sur des feuilles de palmier dans des récipients qui étaient des corbeilles. Et ils sont, ces textes sacrés, on les appelle des sutras. Et ce sont ces sutras qui sont récités, psalmodiés, dans les diverses liturgies bouddhiques.
Alors j'allais justement vous demander, est-ce que dans ce genre de philosophie de religion, est-ce qu'il y a une musique, puisqu'on est tellement à l'intérieur de soi, on est tellement finalement en méditation? Et vous venez de me répondre, c'est une récitation de, un peu comme de la psalmodie, enfin de litanie, qui vous entraîne peut-être vers vous, à l'intérieur de vous.
Oui, il y a cette puissance de la répétition des mantras, qui sont des formules, des courtes formules des syllabes sacrées, comme le Om, par exemple, qui ont cette vertu de nettoyer, de vibrer et de susciter des énergies extrêmement puissantes à l'intérieur de celui qui les récite. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, des instruments qui sont utilisés, qui sont beaucoup des percussions, des bruits de métal, de cloches, de cymbales, de gongs, de tambours, des trompes. Alors, c'est vrai que c'est mystérieux. Pourquoi ces musiques-là et pourquoi pas des musiques plus mélodiques, si vous voulez? Moi, je pense que ça a un rapport, c'est personnel, c'est mon interprétation propre, avec les sonorités intérieures du corps. C'est-à-dire que ça correspond à une sorte de descente à l'intérieur du corps ou à l'extérieur. Et on entend des bruits qui sont des bruits rencontrés au cours de ce voyage intérieur. Et ces bruits sont structurés en obscur, lumineux, sombre, mat, etc.
Bah écoutez, on va écouter tout de suite un troisième extrait donc de musique bouddhique, extrait de l'album Tibet, Tibet, donc ça nous vient du Tibet. Alors, c'est quoi cette formule qu'on entend, donc qu'on connaît hein?
C'est un mantra qu'on appelle le mantra de la compassion. Dans le bouddhisme, il y a les bouddhas de la compassion, ceux qui ont atteint la réalisation, mais qui refusent de partir dans l'autre monde et qui restent par compassion avec le reste de l'humanité pour transmettre leur charge spirituelle. Et le grand Bouddha de la compassion s'appelle Avalokiteshvara, il est connu sous ce nom-là. Et dans le bouddhisme tibétain, il y a ce mantra, Om Mani Padme Hum, qui est récité, qui comprend plusieurs parties, Om, la syllabe Om, qui symbolise le corps, la parole et l'esprit. Hein? Il y a Mani, qui signifie le joyau. Rassembler ce mantra est un joyau. Padmé signifie le lotus de la sagesse. Donc, le corps, la parole, l'esprit rassemblés en un joyau permettent d'atteindre la sagesse, Padmé. Et à ce moment-là, l'ensemble devient un tout indivisible comme un diamant. Donc voilà ce qui est récité, répété à travers ce mantra qui est un mantra très puissant et qui est récité dans tout le monde bouddhique.
Et on entend cette répétition qui finit par provoquer une espèce presque de transe avec des dégagements harmoniques incroyables.
Absolument, c'est la puissance effective du son et des vibrations. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pratique-là, c'est qu'on a affaire à quelque chose de concret. Qui rentre dans le corps, qui pénètre dans le corps et qui produit des effets par vibration.
Alors, on trouve ça d'une façon un peu différente. Excusez-moi de revenir toujours au judaïsme, mais c'est vrai que c'est un sujet que je connais assez bien. Et donc, on trouve ça dans certaines pratiques mystiques, notamment. Alors, on pense bien sûr au mouvement hassidique, avec ses répétitions aussi d'onomatopées. Et puisqu'on parle justement du judaïsme, on va arriver à cette religion qui est donc la première religion monothéiste. Qui est paradoxalement très difficile à définir, hein, à part le fait qu'elle est fondée sur l'alliance contractée entre Dieu et Abraham et renouvelée entre Dieu et Moïse. Et les lois qui ont découlé de cette alliance sont consignées dans ce qu'on appelle le Tanakh, qui est en fait l'acronyme de Torah. Nevim, c'est les prophètes, et Ketuvim, ce sont les écrits. Et ces textes donc constituent la Bible hébraïque. Mais la pratique du judaïsme et l'interprétation de ces lois est infiniment variée. D'ailleurs, comme dans toutes les religions, hein, donc à chaque fois, je précise, on entend un extrait musical, mais c'est qu'une infime parcelle.
Absolument, c'est très très riche. C'est très riche.
Voilà, c'est d'une richesse infinie. Donc, le judaïsme aussi, bien sûr, de l'orthodoxie le plus stricte au libéralisme éclairé. Il existe 1000 façons de pratiquer le judaïsme et évidemment 1000 manières de le mettre en musique.
De le chanter, absolument.
En tout cas, souvent, cette pratique musicale, elle est quand même intimement liée aussi cycle des fêtes de l'année religieuse, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'année, et au cycle de la vie, c'est-à-dire des événements qui vont rythmer la vie, c'est-à-dire la naissance, la bar mitzvah ou bat mitzvah, donc la communion, le mariage, le décès. Et vous nous avez amené un exemple assez étonnant, et puis je me suis dit, mais c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça combine ces deux aspects, puisque vous avez une prière, c'est une prière, Rosh Hashanah, donc la prière de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, mais interprétée ici, un petit peu à la façon du cycle de la vie, par Gérard Edry, avec sa guitare, donc comme un air, qui s'inscrirait dans ce cycle qu'on pourrait chanter à des mariages, qu'on pourrait chanter...
Oui, et puis je crois que dans les paroles, il connecte cette prière de Rosh Hashanah avec Yom Kippour, c'est-à-dire que dans ce cycle qui va du Nouvel An du calendrier juif jusqu'à Kippour, il fait défiler tout le cycle de la vie. Mmh. Il fait défiler tout le cycle de la vie, et c'est ça qui est intéressant.
Tout à fait, alors on l'écoute.
Oui, désolé.
Rosh Hashanah yikatevun, uveyom tzom kippur yechatemun. Rosh Hashanah yikatevun, uveyom tzom kippur yechatemun. Kama yavruun v'chama yibareu. Kitzo, mi lo v'kitzo. B'rosh Hashanah yikatevun, uveyom tzom kippur yechatemun. B'rosh Hashanah yikatevun, uveyom tzom kippur yechatemun. Hashanah yikatevun, uveyom tzom kippur yechatemun. Rosh Hashanah yikatevun, uveyom tzom kippur yechatemun. Mi vachanika umi.
Rosh Hashanah, interprété ici par Gérard Edry, extrait de son album Sons of Sepharad. un morceau, d'ailleurs, comme je le disais, qui présente une facette, évidemment, de ces musiques sacrées juives, puisqu'il y a beaucoup de facettes où on peut entendre dans des chants synagogues, c'est une assemblée de fidèles, etc. Donc, il y a de multiples pratiques, mais encore une fois, on ne peut pas tout montrer ni tout entendre.
Bien sûr.
Gérard Kurdjian, le judaïsme a donné naissance, ou plutôt est à l'origine de deux religions monothéistes qui comptent le plus de fidèles sur notre planète, donc le christianisme, auquel vous consacrez près de 200 pages, ou pas loin, 150 pages dans votre livre, et puis l'islam. Alors, on va peut-être parler déjà du christianisme. Pour rappeler, évidemment, vous le savez, le christianisme est basé sur la vie et les enseignements de Jésus de Nazareth. Le christianisme voit en Jésus le Messie annoncé par les Écritures. Et donc, le centre de cette religion et de la religion chrétienne s'enracine dans la foi en la résurrection de Jésus-Christ. L'islam est également une religion monothéiste qui reconnaît d'ailleurs l'ensemble des prophètes du judaïsme et du christianisme, même si elle considère parfois que leurs messages ont peut-être été dévoyés. Mais elle s'appuie sur l'enseignement de Mahomet, né donc vers 570 après Jésus-Christ dans l'actuelle Arabie Saoudite, après sa révélation d'un Dieu unique, Allah. Et Mahomet va donc dicter ses préceptes à ses disciples et fondera avec eux cette nouvelle religion qui sera consignée dans le livre qu'on appelle le Coran. Gérard Kurdjian, donc votre ouvrage, Le Grand Livre des Musiques Sacrées du Monde, donne donc une large place à la musique de ces deux religions, parce qu'elles sont extrêmement variées. C'est pas la musique, ce sont les musiques. Alors, est-ce que, je vais vous demander l'impossible quasiment, on va commencer peut-être par le christianisme. Il y a je ne sais combien de courants dans la musique chrétienne, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots quand même, un résumé, ou je ne sais comment vous dire,
oui,
des pratiques musicales chrétiennes?
Écoutez, dans le monde chrétien, d'abord il y a deux mondes chrétiens. Il y a le monde chrétien occidental et le monde chrétien oriental. Pour parler du monde chrétien occidental, la musique occidentale, on peut dire, la musique classique y compris, est née dans le cadre de la musique liturgique. La messe a été le lieu où, par des commandes de mécènes, de dignitaires religieux, de monarques, des musiciens ont composé et créé. C'est là qu'est née la polyphonie, c'est là qu'est née l'instrumentation, et c'est là, de là que sont nées d'une certaine façon toutes les musiques. Donc on a, dans le cadre du christianisme occidental, une efflorescence musicale extraordinaire. On a des musiques sacrées populaires qui se sont développées à travers des confréries de pénitents, des confréries d'artisans, qui étaient toutes placées sous le patronage d'un saint, et qui, en Méditerranée, en Espagne, dans l'Italie, dans la Corse, en Sardaigne, dans la Dalmatie, ont développé des traditions de chants sacrés populaires, qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus rustiques, et en Corse par exemple, et qui ont une puissance particulière. Deuxième répertoire, dans les églises d'Orient, qui, elles, sont restées souvent, d'ailleurs, sous l'emprise de la domination musulmane, puisque toute la Syrie, l'ancienne Syrie, l'Irak, l'Égypte, avec l'église copte, étaient dans l'Empire ottoman. Les églises orientales, l'Arménie, les églises orientales ont développé des chants qui sont beaucoup plus proches du chant des origines. Elles ont gardé des influences de tradition juive, des influences de tradition grecque, byzantine, qui sont restées très présentes et qui sont encore vivantes dans un autre corpus, donc musical. L'église orthodoxe aussi dans le monde slave a développé aussi une autre tradition de chant polyphonique, de chant de chœur, dans lequel la voix est toujours omniprésente. Donc on a dans ce monde chrétien une variété de musique absolument extraordinaire qui a amené d'ailleurs dans le monde occidental, où religion et société civile se sont découplées d'une certaine façon, une efflorescence musicale qui est largement sortie du cadre liturgique, puisqu'on a maintenant, on a eu des requiems de 250 personnes comme le requiem de Verdi ou de Berlioz, qui ne tenait absolument plus dans une église et qui n'avait de requiem que le nom, qui n'était plus des requiems, qui étaient des œuvres artistiques, esthétiques, symphoniques.
Alors, je vous propose d'écouter donc un exemple de peut-être la prière centrale du christianisme, le Notre Père. On ignore parfois que cette prière enseignée par Jésus à ses disciples est inspirée du Kaddish. C'est la première demande du Kaddish qui dit que soit magnifié et sanctifié son grand nom, et la deuxième qu'il fasse régner son règne, correspondent en fait aux deux premières demandes de la prière du Notre Père, que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié. Donc il y a des rapports très étroits entre ces deux prières, et on va tout de suite écouter ici un Notre Père. Un extrait donc du Notre Père, mais dans quelle langue est-il chanté?
Alors, c'est le Notre Père, Hayr Mer, en arménien. Donc, c'est un extrait de la messe arménienne, chanté par le chœur Hover, qui est un chœur de chambre arménien qui réside à Yerevan, qui est un des meilleurs chœurs au monde, qui chante non seulement dans le cadre de la liturgie, mais aussi dans le cadre de la création contemporaine. Il chante, par exemple, beaucoup d'œuvres de Penderecki, Christophe Penderecki, le grand musicien contemporain, qui est d'origine arménienne, d'ailleurs. Et donc, je voulais choisir cet extrait du Notre Père, parce que d'une part, il me rappelle des souvenirs d'enfance, parce que cette prière est celle qui conclut la messe arménienne. Et en même temps, c'était un regard porté vers l'église arménienne et vers les chrétiens d'Orient qui sont vraiment durement persécutés par les islamistes au Moyen-Orient. Et donc, je voulais porter l'attention, le regard sur la beauté de ces chants.
Très bien. Alors, nous allons passer à la dernière religion pour ce soir. Il y en a bien d'autres. Il s'agit donc de l'islam. Alors là aussi, l'islam est protéiforme et la tâche serait immense pour décrire et aborder toutes les musiques de l'islam. On va peut-être écouter tout de suite un exemple de musique musulmane qui nous vient du Pakistan, et je vous demanderai après, peut-être pour conclure, de le commenter. Donc on écoute tout de suite de Meher Ali un extrait de Man Kunto Maula. Un bref extrait donc de cette musique de l'islam qui nous vient du Pakistan. Quelques mots.
Absolument, c'est une tradition de chant kawali du Pakistan, c'est une tradition qui est reliée à une confrérie soufie qui s'appelle Chishtia, qui est une confrérie répandue dans l'Afghanistan, dans le nord de l'Inde et au Pakistan, et qui est donc centrée sur des cérémonies qui ont lieu chaque jeudi dans les mausolées où sont enterrés des saints de l'islam, et ce sont des chants qui sont à la gloire du prophète de l'islam et à la gloire d'Ali aussi beaucoup, qui est très vénéré dans cette tradition mystique. Ce sont des espaces, les confréries soufis, où beaucoup de chants et de répertoires musicaux se sont développés, parce que dans la mosquée, rien n'est possible si ce n'est la lecture du Coran et l'appel à la prière, à la différence de l'église où on l'a vu avec la messe, ou de la synagogue, où se sont développées toute une efflorescence de répertoires. Mais dans l'islam, comme rien n'était possible dans la mosquée, la musique s'est développée dans les confréries soufis.
Alors Gérard Kurdjian, on vous écoutera encore des heures, mais malheureusement notre émission touche à sa fin. Je vais redonner à nos lecteurs donc les références de votre livre. Je vous incite vivement à vous le procurer. C'est une somme. Je sais même pas si ça a déjà été fait à ce point-là. C'est passionnant. Et puis de plus, Gérard Kurdjian donne un site internet sur lequel on peut écouter des musiques. Donc un livre et de quoi lire, comprendre et entendre. Donc il s'agit du grand livre des musiques sacrées du monde, paru chez Albin Michel, donc de Gérard Kurdjian, Kurkdjian. Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai été ravi de vous accompagner encore au cours de cette émission. Gérard, merci infiniment
merci
pour votre
vous,
présence de ce
vous.
Studio. Et si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes, rendez-vous sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org, ainsi bien sûr que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Rotten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby and my my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were my